Sur la route du soleil levant, après Sunset Boulevard, le boulevard du crépuscule, après Los Angeles, traversée de l'océan Pacifique vers la mer de Chine, la rivière des Perles et Macao. Au-delà des flots, comme écrivait Kessel, Macao m'attendait. Macao nous attendait encore. Retour, deuxième diffusion de notre Macao Ville-Monde, première escale. Bon nouveau voyage sur France Culture Sans Frontières.
Macao, un confetti d'éternité. Un documentaire de Rafik Zénine, Jean-Michel Coqui et Alain Lefkovitch.
Ladies and gentlemen,
and you aussi, Father. Macao is the most wonderful city in the world. No war, no desolation, only happiness and joy. God. A sensual mass intelligent guide of all China. Raul Eduardo Joaquim Almeida. Myself. Adelanta, signore e signorita. Adelanta.
Ama is the same name of Macho.
Ama, c'est le même nom que Majo, qui est une importante déesse chinoise de la région du Fujian. Il y a beaucoup de personnes originaires de cette région du Fujian ici à Macao. C'est aussi le même nom que Tianhu, la concubine céleste. Et donc, on est passé de Ama à Majo, ce qui a donné le nom Macao. Mais il existe également une interprétation locale à l'origine du nom de Macao, à laquelle j'adhère plus volontiers, qui explique que Macao vient d'un gros mot. Vous savez, les Cantonais aiment dire des gros mots. Quand les premiers Portugais sont arrivés à Macao, ils ont rencontré, ici, à Barra, des habitants locaux. Ils avaient avec eux un interprète originaire certainement de Goa ou de Malacca, mais qui n'était sûrement pas un bon traducteur. Alors lorsque George Alvarez, le premier navigateur portugais à avoir atteint le monde chinois, a demandé, par l'intermédiaire de ce traducteur, aux pêcheurs quel était le nom de cet endroit, les pêcheurs à qui il s'est adressé ont répondu
«
Et l'interprète a dit « Macao, Macao ?» Kao est un gros mot qui signifie « pénis ». Mais ce que disaient les pêcheurs signifiait « qu'est-ce que ce putain de mec est en train de chercher ?»
Macao de haut, d'une vue aérienne, on voit trois Macao. Le vieux Macao, et puis le nouveau Macao qui est le côté Hôtel Lisboa, tous les casinos. Et le troisième Macao, c'est le côté Taipa, Colowan, il y a tous ces nouveaux casinos, le Cotai, là, le côté Cotai.
Comme nous le raconte Carlos Marreros, un des plus célèbres architectes de Macao, poète, activiste et animateur de la scène culturelle locale, il est des villes dont le simple nom est un tremplin pour l'imagination. C'est ce que rappelle Philippe Ponce dans son ouvrage intitulé sobrement Macao, ouvrage publié en 1999 au moment de la rétrocession de cette ancienne colonie portugaise à la Chine. Des villes ou des lieux aux noms incantatoires, porteurs de mythes, de légendes et d'histoires. Macao en faisait partie. Dans Villes invisibles, Italo Calvino écrivait « Gardez-vous bien de leur dire que parfois des villes différentes se succèdent en un même lieu et avec le même nom, naissent et meurent sans s'être connues, sans avoir communiqué entre elles. Macao est sans doute l'incarnation de ces villes qui, comme les rêves, sont faites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses, et toute chose en cache une autre. » Macao avait la sérénité divine de l'instant qui passe, comme si une page d'histoire n'en finissait pas de se tourner. Sur ce confetti du bout du monde, les jésuites y ont côtoyé l'univers de Kessel, inhospitalier, grouillant et sulfureux, mystérieux et énigmatique, poisseux et gluant, où le dérèglement, le vice et le dévergondage sont la norme. Un havre de paix pour aventuriers cosmopolites et bidasses coloniaux démobilisés, en mal de débauche et de déperdition, de faste et de lucre, de femmes d'un soir, où l'ivresse des tropiques, les volutes d'opium et le bruit incessant des roulettes amollissent les plus résistants. Même la sueur y colle les sentiments. Mais quiconque est allé sur ce morceau de Chine méditerranéenne peut ressentir la pesanteur du crépuscule d'une cité imaginaire. Si Macao, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué, d'un malentendu et d'une non-rencontre entre deux civilisations qui, malgré une promiscuité parfois étouffante, ne se sont jamais vraiment confrontées, tous les héritiers de ce passé tentent d'en sauver la substantifique moelle d'ici 2049. Car comme Hong Kong, Macao profite encore de ce que la loi fondamentale signée entre Pékin et Lisbonne lui assure en termes de démocratie et de libertés individuelles. Et ce, dans le cadre de ce que la mère patrie a nommé « un pays, deux systèmes ». Une première dans l'histoire de l'isthme. Mais Macao n'est-elle pas la terre d'innombrables premières fois? C'est d'ailleurs sur le lieu d'une des premières fois de Macao que nous rencontrons Francisco Pinheiro, urbaniste visionnaire. Car c'est au pied de la façade de Saint-Paul, cathédrale de la fin du XVIe siècle, ravagée par les flammes en 1835, et dont l'image est devenue le symbole du patrimoine portugais, que tout a commencé. La pluie qui tombe n'a en rien découragé les milliers de touristes qui viennent s'y prendre en photo et y déguster les spécialités bien locales. Du haut de ses 1m90, M. Pinheiro, fin personnage d'à peine 50 ans, se détache de la foule.
In fact, Macao have been number one in many things.
En fait, Macao a été numéro un dans beaucoup de domaines. C'est le lieu de la première université, du premier hôpital moderne, des premières organisations caritatives institutionnelles pour les pauvres et les lépreux, mais aussi des premiers journaux imprimés qui ont été réalisés ici, au Collège Saint-Paul. C'est donc un lieu d'innombrables premières fois. Les Portugais ont réussi à s'implanter ici sans esprit de conquête et sans utiliser la force, ce qui n'a pas été le cas ailleurs, comme en Inde, à Goa, en Iran ou en Afrique, comme au Mozambique. Ici, ça s'est fait par la négociation. Les Portugais se sont alors engagés à payer un loyer aux autorités locales. Et pendant des siècles, ils ont versé de l'argent à ces autorités basées à Canton. Pourquoi les jésuites ont-ils choisi cet endroit, Macao étant une très petite péninsule, pour construire une si grande université? C'est comme si on avait bâti la Sorbonne au milieu de nulle part. La raison est que, ayant beaucoup de travail à effectuer en Asie, ils se sont tout d'abord installés au Japon, où ils voulaient évangéliser des centaines de milliers d'autochtones. Mais à l'époque, le Japon vivait une période trouble d'instabilité. Si bien que les autorités supérieures de l'ordre ont considéré qu'il était plus sûr de construire une faculté et d'ouvrir un séminaire pour former les futurs prêtres ici qu'au Japon. De plus, ils avaient obtenu le soutien d'hommes d'affaires très riches et de marchands de Macao qui faisaient beaucoup de commerce avec le Japon. Si bien qu'à cette époque, au milieu du XVIe siècle, Macao était au centre des échanges commerciaux entre la Chine et le Japon. C'était des échanges commerciaux basés sur l'argent, la soie, la céramique, les armes et les épices. Ainsi, les jésuites ont réussi à obtenir le monopole pour la promotion de la chrétienté au Japon, tout en s'installant durablement, en ayant la main sur les échanges commerciaux. Et Macao est devenu en quelque sorte le quartier général des jésuites en Asie.
So this was the place, the heart of the missionary work in Asia. In fact, this street, the street of São Paulo that we are facing,
En fait, cette rue, la rue Saint-Paul qui est en face de nous, était l'endroit où l'on trouvait beaucoup de Japonais.
So this also was an international city.
On y trouvait également beaucoup d'exilés japonais qui avaient épousé des Portugaises et qui s'étaient installés ici. Macao était donc déjà à l'époque une ville internationale. Les Portugais étaient peu nombreux et ils ont emmené avec eux dans leur bateau une véritable cour constituée de personnes originaires d'Afrique, de Goa et de Malaisie. Les Portugais ne pouvaient pas épouser des femmes chinoises parce que les deux populations vivaient séparément. Et puis de toute façon, les étrangers étaient perçus comme des diables d'étrangers. Et il ne fallait pas avoir de contact avec le diable. C'est pour cela que dans les temples chinois, on trouve beaucoup de choses qui servent à repousser le diable venu de l'étranger. Dans le même temps, Macao était également un endroit d'où l'on protégeait la Chine continentale du diable. Et dans le même temps, les diables étrangers faisaient du commerce avec la Chine. On se protégeait également d'autres barbares encore plus dangereux, comme les Hollandais, qui étaient considérés comme très violents. On les appelait les barbares aux cheveux rouges, dont on se méfiait comme des petits diables jaunes japonais.
In Macao, everything came from the sea.
À Macao, tout est venu de la mer.
Carlos Mareros.
Sampan,
les premiers sampans et les premiers vaisseaux en Extrême-Orient, bien avant les Portugais, qui faisaient du commerce avec la Chine, sont arrivés à Macao en provenance du premier port du sud de la Chine, à Canton.
They have to reach Macao. The people, the sensibility,
les gens, la sensibilité de ces gens et l'architecture qui ont influencé Macao sont venus de toute l'Asie du Sud, principalement d'Inde et pas seulement de Goa, mais aussi du Rajasthan, dont les formes architecturales se mélangent ici avec l'architecture portugaise et d'autres cultures, comme celle de Java ou celle du Sri Lanka. Cette architecture asiatique a influencé les Chinois locaux et les Européens installés ici. Donc quand les Portugais se sont établis, Macao vivait la période de la Renaissance, avec des innovations dans tous les domaines. Les arts, la science, le commerce, la médecine, l'astronomie. Il y a plusieurs architectures, la chinoise et la portugaise, mais pas seulement. Il y a l'influence européenne hors Portugal, parce que les missionnaires jésuites, italiens, français, espagnols, ainsi que les commerçants, ont apporté leur propre sensibilité. Ainsi, ce qu'on appelle l'architecture portugaise de Macao est en fait quelque chose de très local, de très mélangé avec des techniques locales de construction, des sensibilités et une philosophie locale. C'est incroyable de voir même encore aujourd'hui certaines maisons à l'architecture très portugaise ou très européenne, qui, lorsqu'on en observe les détails, s'avèrent être des bâtiments truffés de symboles qui n'appartiennent pas à la culture européenne.
Les motifs représentés sur cette façade sont très intéressants.
Francisco Pinheiro.
On y trouve la Sainte Vierge, à qui la cathédrale est dédiée. C'est l'Assomption de Marie qui est représentée. Autour d'elle, on peut voir des anges qui jouent de la musique, de la flûte, de la harpe. Et on y voit en plus d'autres éléments, comme la fontaine de la vie, les arbres de la vie. Et puis on a sur le côté gauche les navires portugais qui apportent la foi, et au sommet des bateaux, il y a l'image de la Vierge qui protège l'Église. Les bateaux étant également la métaphore de l'Église menacée par la tempête. De l'autre côté, on trouve un symbole très intéressant qui est l'hydre, ce monstre à sept têtes. C'est très intéressant parce que le symbole du mal est représenté par un dragon. Mais ici, le dragon est aussi le symbole de la Chine. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas mis un dragon, ce qui politiquement aurait eu un impact négatif fort, mais une hydre à sept têtes.
À Macao, au cours de ces 500 dernières années, on ne trouve aucune trace de tension religieuse.
Carlos Mareros.
On trouve ici principalement des bouddhistes, des taoïstes, des confucianistes. Et puis vous avez les chrétiens, catholiques, protestants. Et puis vous avez des musulmans. Ils ne sont pas nombreux, mais on trouve une petite mosquée située dans la rue Ramal dos Mouros.
Even the name is called Ramal dos Mouros, Moorish promenade.
La promenade des morts.
People coexist.
Tous ces gens coexistent en parfaite harmonie.
And if you go to
et si vous vous rendez aux ruines de Saint-Paul,
Mother of God Cathedral.
Vous remarquerez que sur son flanc gauche, il y a un petit temple, un très petit temple qui s'appelle le nouveau temple de
Na Cha,
qui pénètre l'enceinte de ce qui constituait la première cathédrale. Selon moi, c'est quelque chose de très touchant pour l'histoire de Macao. La puissante cathédrale et le petit temple, presque dans les bras l'un de l'autre, incarnent l'esprit de tolérance de Macao. Il y a également autre chose que je trouve très fascinant ici. Les gens interprètent les choses comme ils le veulent. Je trouve ça très intelligent. Je vous donne un exemple.
There's a statue of Hunyam.
Vous devriez vous rendre à Lugo Fayana, l'avenida des Coronel Mesquita, où il y a une statue de Kunlam. Les Chinois la regardent comme la déesse de la compassion, mais les chrétiens la regardent comme une statue de la Vierge Marie.
As a statue of Virgin Mary.
Lorsque les Chinois ont construit la ville, ils l'ont fait selon certaines lois, celles de la géomancie et du feng shui, ce qui veut dire que nous avons la montagne derrière et la mer en face. Les Portugais, eux, aiment l'altitude. C'est pour cette raison qu'ils ont construit des églises dans des forts pour des raisons de protection et aussi de ventilation à cause du climat. Ils ont donc vécu les uns à côté des autres. Mais pour les Chinois, la situation géographique des Portugais était synonyme de mauvaise chance. Ils n'auraient jamais été vivre en haut. C'est intéressant de voir comment ces deux cultures, qui ont des points de vue si différents et qui arrivent à vivre ensemble, chacune pensant occuper la meilleure place. Ça, c'est très intéressant. On a Saint-Paul avec la rue portugaise, la rue Saint-Paul où vivaient beaucoup de Japonais. Et là, quand on se dirige vers le port intérieur, on va vers la ville chinoise. Et les constructions sont totalement différentes, faites de briques. Et puis, vous avez toutes les communautés fermées. Seuls ceux qui habitaient ce quartier pouvaient emprunter ces portes. C'était un quartier noir de monde. Plusieurs fois au cours de son histoire, Macao est devenu un centre de réfugiés. Par exemple, durant la guerre civile en Chine, au moment de l'invasion japonaise, la ville était envahie de réfugiés. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient près de 500 000 et 80% d'entre eux vivaient dans cette ville chinoise, là où ils pouvaient. Macao est une sorte de mer qui accueille tout le monde, et j'espère que ça restera comme ça. On peut descendre ces escaliers pour aller voir ces vieilles portes.
So the characteristics of the Chinese house of this period.
La caractéristique des maisons chinoises de cette époque, qu'on trouve beaucoup dans le sud de la Chine, c'est qu'il n'y a pas de colonnes.
Les fondations sont en pierre et les murs sont en briques, tandis que le toit et le sol sont faits de poutrelles de bois arrondies et recouvertes de tiges. C'est très simple, très peu cher et facile à construire. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un incendie et qu'une des maisons s'écroule sur les autres, ce qui peut provoquer un effet de domino et enflammer tout le quartier très rapidement. La densité de population était très forte. La plupart des familles vivaient dans de très petits espaces. Et certaines de ces maisons, c'est ce qu'on appelle le compartiment chinois. Vous avez une boutique au rez-de-chaussée et la famille vit à l'étage au-dessus. C'est une forme d'habitation qui a beaucoup de succès, pas seulement à Macao, mais dans toute l'Asie, parce que les gens vivent au-dessus de leur boutique et même parfois dans leur boutique, ce qui veut dire qu'ils peuvent rester ouverts très tard ou rester ouverts la plupart du temps, et c'est très bon pour les affaires. C'est ce qui s'est passé à Singapour, en Malaisie, partout où les Chinois ont commencé à s'enrichir grâce à cette façon de vivre dans leur boutique maison. Mais aujourd'hui, à Macao, la plupart de ces bâtisses s'écroulent. Et comme ce sont des espaces très petits d'à peine 5 mètres de large, il est difficile de construire quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y a pas de place pour un ascenseur et pour un escalier de secours en cas d'incendie. Mais j'espère qu'on va protéger ces vieilles constructions parce que Macao est à la fois portugais et chinois. Les deux histoires devraient être côte à côte. On ne doit pas uniquement préserver les maisons des riches, comme le palace qui est la résidence du gouverneur, mais également la maison des pauvres, les vieilles usines. C'est très important. Mais bon, ici, les habitations sont parfois insalubres et très pauvres. Certaines sont sans toilettes, c'est trop petit. Et en plus, dans ce quartier, il n'y a pas assez d'écoles. Si bien que beaucoup de jeunes partent d'ici pour vivre dans de nouveaux appartements sur Taipa. Aujourd'hui, beaucoup de ces habitations sont vides. Il reste parfois une vieille dame ou un vieux monsieur qui ne veulent pas aller ailleurs. Beaucoup de promoteurs immobiliers sont à l'affût. Ils attendent que les logements soient vacants. Ils en achètent par lot et construisent à la place un nouveau building. C'est étonnant de voir un building au beau milieu d'un vieux quartier aux ruelles étroites. Ça pose beaucoup de problèmes en termes de trafic, en termes de vue panoramique, en termes de circulation de l'air. Ici, par exemple, il n'y a pas de plan local d'urbanisme entre la vieille ville et la ville nouvelle. On appelle ça le marché libre. Mais ce n'est pas véritablement un libre marché. C'est plutôt un marché sauvage occidental. Celui qui a de l'argent contrôle qui il veut et ce qu'il veut, et les petits n'ont qu'à bien se tenir.
Alors Eric Sautelier, on est où là? On est au club militaire, au club militaire. C'est quoi cet endroit?
Alors le club militaire, c'est le club des correspondants de presse étrangers aujourd'hui. Aussi un club social, un club privé. Alors privé à Macao, tout s'arrange. Donc il est quand même ouvert au public à certaines heures, notamment pour dîner. Mais sinon, c'est l'ancien mess des officiers. C'est une bâtisse de la fin du 19e siècle, exactement de 1870, qui est juste à côté d'un des premiers forts construits en fait au début du 17e siècle pour repousser les Hollandais, qui n'a jamais servi, comme beaucoup de forts qui ont été construits ici. Ils ont toujours été construits avec une bonne intention, mais toujours trop tard et ne servant à rien. Alors on ne peut pas dire la même chose, bien évidemment, du club militaire, mais c'est devenu aujourd'hui un lieu de rencontre amicale où il y a des jolies fêtes pour Noël, il y a des jolies fêtes pour le jour de l'an, il y a des ors, des stucs, une très belle hauteur sous plafond. C'est une très belle bâtisse coloniale, ça fait partie de l'héritage portugais à Macao.
Alors ici on est dans le symbole de la Cité de Dieu, parce que les Portugais avaient un drapeau ici à Macao, il y avait écrit Cité de Dieu. Et à quelques encablures, on est dans la cité du vice. Il y a le grand Lisboa qui est juste à côté de nous. C'est le choc des cultures, c'est la fin d'un héritage portugais, c'est place au jeu et la fin d'une histoire.
Alors, je n'opposerai pas la cité de Dieu à la cité du vice, parce que les deux ont toujours cohabité gentiment. Alors peut-être pas dès le départ, dès le XVIe siècle, effectivement, mais très rapidement, Macao va décliner au XVIIe siècle, avec la fin de la route vers le Japon, quand le Japon se ferme, et la fin de Malacca. Donc Macao va péricliter, ne retrouvera sa splendeur qu'à la fin du XVIIIe avec l'arrivée des Anglais, et puis encore une fois va perdre sa splendeur à partir du moment où Hong Kong est créé, donc en 1842, après le traité de Nankin. Et à ce moment-là, Macao devient le lieu de tous les possibles. Alors ça a déjà commencé au 18e, le jeu était très important à la fin du 18e, le jeu et la prostitution. Ça le devient encore plus avec au 19e, quand il n'y a plus d'argent. En plus, le Portugal perd le Brésil en 1822, donc il n'y a plus d'argent du tout pour ces colonies. Il faut bien quand même que l'administration coloniale continue de perdurer. Donc on trouve des moyens alternatifs de financement. Le jeu en est un, mais il y a aussi un beau trafic, qui est le trafic des coulis, qui commence à partir des années 1850. Donc il y a beaucoup de coulis qui vont construire le beau chemin de fer américain, qui vont partir de Macao, donc qui vont voguer vers l'Amérique latine d'abord, et ensuite enfin, les Caraïbes, et ensuite les États-Unis, pour construire le chemin de fer allant d'est en ouest, donc à la fin du 19e siècle. Donc le vice et la religion et la conquête des âmes ont toujours fait bon ménage, l'un finançant d'une certaine façon l'autre. Au début du 20e, il y a les jeux sur les concours mandarino à Macao. C'est un des principaux jeux. Donc on parie sur l'ordre d'arrivée au concours mandarino, bien sûr quelque chose qui est complètement interdit en Chine. Donc tout ce qui est d'une certaine façon marginalisé en Chine, marginalisé à Hong Kong, finit à Macao. Et ça nourrit et ça alimente les coffres de l'administration coloniale. Donc de toute façon, il y a une saine entente, si je puis dire, entre le vice et la vertu. Sachant que l'Église a souvent été assez hypocrite par rapport à cette relation au jeu, puisque même aujourd'hui, toutes les activités charitables sont financées par le jeu. C'est l'État dépense un peu plus du tiers de ses revenus par an, parce qu'il est tellement riche qu'il ne sait pas quoi faire de tous ses revenus issus du jeu. Donc Macao, c'est aujourd'hui 6 fois Las Vegas. On ne sait pas comment dépenser notre argent, ce qui est un peu indécent, effectivement, en période de crise, de dire ce genre de choses. Mais l'Église a toujours été financée par cette charité venant des casinos. Même pour nous, moi je suis universitaire, notre université, c'est la Macao Foundation qui nous finance. La Macao Foundation, c'est 3%, récupère 3%, une taxe de 3% sur les profits du jeu. Donc, de toute façon, alors on peut se voiler la face, on peut dire, ah oui, mais ce n'est pas directement, c'est quand même, ça passe par le gouvernement. Et n'empêche, c'est l'industrie du jeu qui alimente toutes les activités de Macao. Donc il est très difficile et il sera très difficile dans le futur. Ça a été impossible dans les années 80, alors qu'il y avait déjà pourtant une industrie manufacturière, notamment tout ce qui était vêtements et souliers. Ce sera très très difficile de trouver une alternative. Alors il y a eu des volontés de diversification alors aujourd'hui c'est l'industrie de la création. Pourquoi pas ? Enfin, l'industrie de la création, c'est pas ce qui rapporte et qui fait vivre une économie entière, sachant que la moitié de la population active vit du jeu et de l'hôtellerie ici. Donc, de toute façon, il y a une imbrication très très forte entre le vice et la vertu. Et puis surtout, Macao est aujourd'hui a connu un tel succès que tout le monde veut une part du gâteau. Tout le monde veut faire la même chose. Singapour, les Philippines, Hong Kong, à un moment donné, se posaient la question de savoir s'ils n'allaient pas installer, y compris les démocrates, s'ils n'allaient pas installer un casino à Lantau, sur l'île de Lantau. Donc, ça attise bien évidemment toutes les convoitises, ça fait rêver tout le monde, parce que c'est une source d'argent colossale, et c'est pas que la Chine. C'est la Chine, bien évidemment, donc c'est les millionnaires chinois, parce que là, l'essentiel du jeu ici, l'essentiel des profits du jeu viennent de ce qu'on appelle les baleines, les gros joueurs, donc c'est plus de 70%, ça concerne 2-3 000 personnes maximum, donc ce sont tous ces gens qui ont fait des fortunes colossales et qui viennent dépenser quelques miettes à Macao. Et puis le mass market, c'est 30%, mais effectivement, c'est l'essentiel de nos 30 millions de visiteurs par an, sachant que la plupart des visiteurs donc aujourd'hui viennent de Chine, alors qu'il y a 15 ans, l'essentiel les visiteurs venaient de Hong Kong. Donc ça a changé, mais le jeu est devenu quelque chose une source de fierté, alors qu'auparavant c'était plutôt quelque chose, pas une maladie honteuse, mais c'était quelque chose dont Macao n'était pas forcément très très fier.
Okay, we are in October 5 Avenue.
Nous sommes sur l'avenue du 5 octobre, ce qui était pendant des années le centre du jeu de Macao.
The gambling center.
Il n'y avait pas de casino comme ce qu'on a aujourd'hui, mais il y avait ce qu'on appelait les maisons de Fantan, du nom de ce jeu chinois. Il y en avait près de 200 dans le quartier. Là, vous avez un temple qui s'appelle le Hong Kong Miu, qui marque l'entrée du bazar, qui vendait essentiellement des biens en provenance de Chine continentale. Et ici, vous avez beaucoup de petites guest houses. Regardez cet immeuble. C'est une vieille pharmacie chinoise. Vous avez vu le toit ? Il est ouvert en son centre et à chaque étage, il y a des balcons. Ça, c'est l'architecture typique des maisons de Fantan et des maisons de jeu. Les VIP, les riches, étaient installés dans les étages supérieurs. Ils disposaient l'argent de leur pari dans un petit panier que l'on faisait descendre jusqu'à la table de jeu grâce à une corde. Dans les années 30, les autorités ont accordé le monopole du jeu à une seule compagnie et les maisons de Fantan ont dû s'installer sur l'avenue Saint-Malo, qui est devenue, entre les deux guerres mondiales, l'avenue la plus ouverte du monde. À cause du monopole, le business s'est éteint rapidement dans le quartier. Mais les commerçants ont su se reconvertir. Désormais, on y est spécialisé en pharmacopée chinoise, en thé chinois et en médecine traditionnelle. C'est un changement très intéressant. Ça fait partie de l'héritage de Macao et j'espère qu'ils vont le préserver. Dans cette rue de vieux immeubles, il y a une tour de prêteurs sur gage qui ressemble à une forteresse pour protéger les biens que les gens déposent contre de l'argent liquide. Les biens acquis par le prêteur sont mis en vitrine dans la boutique. Il y en avait beaucoup à Macao, mais maintenant ces tours n'existent quasiment plus. Bref, c'était une rue très commerçante, le business center de l'époque. Et aujourd'hui, c'est un quartier pauvre qui est parfois inondé à cause des typhons qui font sortir la rivière de son lit. Il y a parfois un mètre d'eau dans les rues ici. Quand on regarde la marque que laissent les eaux sur les murs, on sait que le problème n'est pas près d'être réglé. Là, ce que vous voyez, ce sont de vieux immeubles de deux étages. Et dans cette rue, on vend des fruits. Et toutes les petites choses que vous voyez peintes, ce sont des chauves-souris. La chauve-souris est le symbole de la chance dans la culture chinoise. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup. On en met pour attirer la fortune, pour qu'elle vienne s'installer dans cette rue et fasse prospérer les commerçants. Tous les petits temples que l'on voit sont dédiés à la protection et à la prospérité. Les gens prient pour ça. Les casinos sont remplis de ces symboles. On y fabrique des répliques de ces temples et on vous dit que si vous êtes entré dans ce casino par cette réplique de temple, vous allez devenir riche. C'est bourré de symboles, comme les chauves-souris donc, mais aussi de couleurs, comme le rouge, symbole de prospérité et de bonheur.
Là, on est dans un endroit assez intéressant de la ville, parce que avant ici, c'était la mer.
Oui. So this was the...
Oui, ici, c'était le front de mer. Ça s'appelait la baie de la longue plage. Baía de Praia Grande. Le symbole de cette baie était le crabe. Le crabe possède deux pinces puissantes. La première représentait le fort de Saint-François d'Assise. Et la seconde, celui du marquis de Pombal. Les deux yeux représentaient des petits bastions. C'est de cette façon que les Chinois voyaient le bord de mer portugais. Ils lui ont attribué un animal correspondant à une situation géographique définie par le feng shui. C'est donc le crabe qui symbolise cet endroit et qu'on retrouve dessiné sur les pierres des trottoirs. Quand ils ont percé l'avenue Saint-Malo, ils ont coupé dans le crabe et les gens ont dit « C'est mauvais pour Macao. On ne coupe pas dans un bon feng shui, dans la bonne fortune d'un endroit. »
Alors, Franck Lay, on est dans un parc qui est cher pour vous.
Ça vous rappelle des bons souvenirs? On est où?
On était dans un jardin, s'appelle, en cantonais, s'appelle Pacacha. Pacacha, ça veut dire une sorte de pigeon blanche. Oui.
Une colombe?
Oui, oui, oui. Oui. Donc, quand j'étais petit, hein, je ne sais pas, ici, il y a une sorte, il y a une statue, avant, il y a le poème assez connu, ça s'appelle Caloche. Pour nous, ça, en chinois, c'est Gamo ici. Ah, je me souviens une fois, j'ai vu une photo de mon père. Il a une photo justement là, devant ce statue. Donc ça, j'ai un bon souvenir de mon père.
Louis
Chikamanche. Voilà, en chinois, c'est Gamo ici.
Alors dites-moi, pourquoi votre père était un grand connaisseur de Camanche?
Pour lui, c'est parce qu'à l'époque, il est traducteur chinois et portugais. Donc pour lui, peut-être c'est dans l'histoire, il connaît un peu de l'histoire de Macao. Parce qu'à l'époque, on est plutôt à l'école, on n'apprend pas l'histoire de Macao en fait. On seulement apprend l'histoire chinoise de Chine, l'histoire de Chine, pas de l'histoire de Macao. Donc pour nous, on ne connaît pas vraiment quels gens importants ils sont restés à Macao. Ils sont, ouais. Donc je crois que c'est à cause de ça, mon père me parlait un peu de ça. Oui.
Mais on n'apprenait pas l'histoire du Portugal?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça c'est bizarre. C'est-à-dire, peut-être c'est à cause de... parce qu'à l'époque, on a différentes écoles. Il y a certaines écoles, plutôt c'est à gauche. C'est-à-dire plutôt proche de la Chine communiste, on peut dire ça. Et puis, nous, l'école que je fais les études, c'est ça, c'est ce genre de l'école. Donc, l'histoire, c'est seulement la Chine. Très peu de choses sur Macao. C'est seulement après que je aperçois que c'est important, quoi.
Alors, vous êtes né à Pékin, parce que vos parents sont partis de Macao pour aller travailler à Pékin. Et ils faisaient quoi là-bas?
Eux, ils font la tradition, ils sont travaillés dans la radio de la Chine. Et puis, dedans, il y a la section portugais. Donc, eux, ils sont les premiers gens qui sont allés là-bas pour travailler. Ouais. En fait, pour aider le pays à l'époque, c'est très simple. Pour aider le pays.
Donc, quel pays?
Pays, la Chine. La Chine, c'est notre pays.
Mais à l'époque, ici, c'était portugais, c'était pas chinois?
Oui, plutôt portugais, mais dans l'éducation, on est plutôt, pour moi, on n'est pas très lié au Portugal. On dit que c'est une sorte de colonie, donc on est plutôt proche de la Chine, soi-disant.
Vous n'aviez pas de copains portugais?
Non.
Vos parents n'avaient pas d'amis portugais?
Je crois... Seulement en Chine, on a des camarades, ils ne sont pas portugais, ils sont de brésiliens. Mais je me souviens, c'est à l'époque, je n'ai pas d'amis portugais. Seulement parce que... pour nous, une part, on ne parle pas portugais. Même à l'époque, on n'apprend pas portugais. Ouais, c'est pas obligatoire. Et puis, notre part, c'est eux, ils n'ont pas aussi envie de connaître les gens locaux, quoi. Donc, ils sont très fermés, on peut dire ça.
Et vous, le portugais, vous le parlez?
Non, normalement, non. Parce qu'on n'a pas la chance d'apprendre, ou bien on n'a pas vraiment envie d'apprendre, c'est ça. Sauf parce qu'ici, il y a notre génération, ou bien notre gens, ça s'appelle Macanais. Ces gens-là, c'est des métis portugais et chinois. Donc eux, ils parlent, ils voulaient apprendre le portugais et puis pour travailler pour le gouvernement, quoi. À l'époque, c'est comme ça. Ouais.
Mais alors, on les appelle comment, les habitants de Macao?
Macanais.
Mais vous n'êtes pas Macanais, vous êtes chinois.
Oui.
Mais les habitants de Macao, c'est les Macanais.
Non, c'est-à-dire, on dit Mackenet, c'est une sorte de génération, eux, dans la famille, dans leur famille, peut-être certains, avant, ils sont portugais ou ils viennent de là-bas, donc eux, on appelle ces gens-là, c'est pas Mackenet. Bien sûr, tout le monde peut dire on est chinois de Macao.
Na prática, vamos saber o que são os clubes
Toastmasters.
Eric Sauteday, on a l'impression qu'on est dans une ville-État, entre guillemets, ville-État, où il y a trois communautés qui cohabitent sans jamais vraiment se frotter l'une à l'autre. Il y a les Chinois d'un côté, les Portugais et puis les Macanais. C'est une vue de l'esprit ou est-ce qu'il y a des liens forts entre ces trois communautés qui cohabitent depuis plus de 400 ans ?
Alors non, c'est pas une vue de l'esprit. Certains vont même jusqu'à dire qu'il y en a même six des communautés, puisqu'il y a avec un penchant plus ou moins fort pour l'une ou l'autre. Donc il y a les Portugais qui se sentiraient assez proches des Chinois, les Portugais vraiment portugais de souche et qui ne veulent surtout pas se mélanger, les Chinois qui pourraient avoir un intérêt quand même pour le monde extérieur, et puis les Chinois qui restent entre eux. Et les Macanais, alors les Macanais ont toujours été effectivement un petit peu le lien entre les deux, mais ils ont beaucoup servi l'administration coloniale comme un petit peu communauté tampon et pour relayer les ordres. C'est ce qui a fait aussi leur fortune, puisqu'ils ont été appelés à Hong Kong pour participer du miracle à Hong Kong, étant donné leur capacité en langue et le nombre de personnes qu'il pouvait y avoir, donc qui sont partis dans les années 50-60 à Hong Kong. Mais ça reste une communauté. Il y a beaucoup plus de Macanais aussi qui vivent à l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Il n'y avait pas de possibilité vraiment de faire une carrière ici à Macao auparavant. Il y avait vraiment qu'un peu de jeu et... Donc c'est des communautés, oui, qui s'ignorent, qui sont toujours ignorées, je dirais. On peut rajouter une quatrième communauté aujourd'hui, qui est la communauté étrangère, qui a gonflé énormément. Donc il y a beaucoup d'Australiens, il y a beaucoup d'Israéliens, notamment avec Sheldon Adelson et les casinos Venetian, Sands Venetian. Mais il commence à y avoir comme ça pas mal d'étrangers qui forment une communauté. Il y a quand même aujourd'hui trois journaux, trois quotidiens anglais. Chose qui n'existait pas, il n'y avait aucun quotidien anglais avant 2004, donc on voit que c'est très très lié vraiment au développement de ces nouveaux casinos. Il y a trois quotidiens portugais qui sont absolument pas lus par la communauté chinoise, par contre qui sont traduits par tous les départements de la fonction publique, sachant que normalement, officiellement, d'après la loi fondamentale, les deux langues, donc le chinois, enfin le chinois, ça reste vague, parce que c'est pas forcément le cantonais d'ailleurs, donc le chinois et le portugais sont les deux langues officielles. Et puis il y a d'autres, il y a même le diocèse ici a un hebdomadaire qui s'appelle Au Clarim. Ils ont même un journal d'intervention par rapport aux questions sociales qui s'appelle le Macao Observer, tout en chinois. Donc il y en a un en portugais, un en chinois. Donc comme ça, on a une presse assez riche, mais qui s'ignore, qui ne se cite pas les uns les autres. Alors la presse chinoise est bien évidemment la plus abondante, c'est la plus lue. Mais c'est vrai que moi, ayant souvent à faire la promotion quand même de nos activités à l'université, j'insiste toujours pour qu'on fasse beaucoup plus, alors qu'on est une université héritière de l'héritage portugais, puisque c'est l'Université catholique du Portugal qui est, avec le diocèse de Macao qui est derrière nous. J'insiste toujours pour qu'on soit beaucoup plus présent dans la presse chinoise, puisqu'il n'y a que la presse chinoise d'une certaine façon qui a un impact social est significatif. Donc, il y a un décalage absolument extraordinaire entre ces communautés. Les Makanais faisant bien évidemment exception, puisqu'ils ont ce talent des langues, et ils ont la chance d'être entre les deux communautés. Tant et si bien d'ailleurs qu'avant leur rétrocession, ils avaient la volonté de devenir la 57e minorité nationale de Chine, chose qui n'a pas été acceptée, mais il y avait une volonté très très forte d'être reconnue comme vraiment une minorité à part, en tant que telle, avec son propre dialecte, donc le patois. Mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours troublant de parler... Alors, il y a des Makanais qui sont très, très chinois. Et puis, il y a des Makanais qui ont fait... La plupart des Makanais ont fait leurs études au lycée portugais ici, ou au lycée, quand il y avait encore des sections bilingues avec du portugais, mais c'était surtout le lycée portugais, et parlent le cantonais, mais n'écrivent pas le chinois. Donc, c'est assez troublant de voir des gens qui parlent parfaitement le cantonais, mais par contre, on leur indique une enseigne dans la rue, et ils sont incapables de la lire.
Francisco Pinheiro, on est dans une boutique qui s'appelle Lembrança Fong Seng Lei Loi. This is
It's a very interesting part of Macau.
C'est vraiment un des traits intéressants de Macau. Avant, le portugais et les chinois étaient les langues officielles. Vous aviez les noms portugais et les noms chinois ensemble. Parfois, les noms portugais étaient mal orthographiés, et ça donnait des choses intéressantes. Lembrança, en portugais, ça veut dire souvenir, mais ce n'est pas une boutique de souvenirs. C'est une boutique qui vend de la nourriture, des produits typiquement chinois comme le porc, de la peau de porc frite et des cookies.
This is quite new here.
Et cet endroit vient d'ouvrir. Ces grandes boutiques qui vendent des produits industriels envahissent peu à peu toute la rue et viennent remplacer les échoppes traditionnelles qui doivent en plus faire face à la concurrence des grandes marques comme Starbucks ou Haagen-Dazs. Là, c'est une sorte de pancake dans lequel vous mettez des herbes et des fruits de mer. Et ça vous fait un cookie de Macao. C'est une recette assez récente, parce que les cookies de Macao ressemblent traditionnellement plus à des pâtisseries portugaises. Et ce gâteau-là est une sorte d'adaptation des fameux pastel de natas, très célèbres à Lisbonne.
Nata, pastel de nata, famous in Lisbon.
Mais ceux que nous mangeons à Macao ont été apportés par les Britanniques. Ils mettent plus d'œufs dedans et vous avez une egg tart, une tarte aux œufs, spécialité de Macao qu'on trouve également en Chine, à Taïwan et un peu partout en Asie.
Vous êtes à ouvrir France Culture, cidade Mundial Macau. Ville Monde Macau.
Vous êtes ouvi France Cultura. Cidade de Mundo.
Macau, 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 Macau.
Dans Macao, Frédéric Ponce se demande. Cette ville n'a-t-elle été qu'une figure fanée du souvenir, une reconstruction du passé comme celle à laquelle se livrent deux anciens amants qui unissent leurs souvenirs sans faire la part de ce qui a vraiment existé et de ce qui fut seulement rêvé? Que suis-je venu chercher une fois encore en cette ville, tout en sachant que le jeu était fait, que le génie du lieu s'était évanoui, et avec lui, le sortilège, cette amère volupté de ressentir qu'elle n'est plus au rendez-vous? Avant, le présent se confondait avec le passé, que la ville portait incrusté en elle. La ville imaginaire résonnait d'appels et de souvenirs. Elle devenait un recueil de vies oubliées. Macao avait cette inestimable qualité de faire coïncider la ville manifeste et la ville imaginaire. C'est en cela qu'elle était si attachante. Elle l'était aussi parce qu'elle renvoyait à soi-même un débarcadère des volontés. Avec la libéralisation du jeu et l'extraordinaire développement économique, la suspension des heures en cette ville où le temps semblait n'avoir pas de prise s'est achevée.
car un éclat d'éternité ne perdure pas dans la simple immuabilité de monuments. Ceux-ci demeurent comme une incohérente collection de reliques, car le mouvement collectif qui leur donnait sens n'est plus. Cette ville qui s'était si bien habituée à être ignorée est devenue une ville prosaïque, au passé mis en scène, triste reniement de ce qu'elle fut. Seuls restent les héritiers silencieux et résignés d'un passé révolu, broyés par le rouleau compresseur américain et la chape de plomb chinoise. Miguel de Sena Fernandez, homme de théâtre et accessoirement avocat, tente avec sa petite communauté macanaise de sauver des os ce qui peut encore l'être. Une culture qui a du mal à tenir la rampe et une langue quasi moribonde. De père portugais et de mère chinoise, Miguel de Sena Fernandez a depuis toujours été pris pour un japonais par ses très lointains compatriotes lusophones.
Quand on parle de macanais en français, ou de macaïnche en portugais, ou encore de macaïchta en langue très vernaculaire pour parler des macanais, on dépeint cette culture qui est basée sur un mélange. Je ne sais pas si mes ancêtres sont nés au Portugal, et c'est ce que je tente de savoir. Mais néanmoins, nous portons le nom de Fernandez depuis près de 270 ans. À vous d'en tirer les conclusions. Nous appartenons à cette culture unique qui fait que nous avons notre propre façon de voir les choses ici, à Macao. Nous affirmons notre légitimité à être ici. Nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des aliens. Nous sommes nés à Macao et nous sommes chez nous. Nous avons notre propre culture, nous avions une langue qu'on appelle le patois. C'est un mot français, mais nous on préfère l'appeler de lingua macuista, ce qui caractérise mieux notre langue. Et nous possédons notre propre gastronomie. Être macanais, c'est quelque chose de très particulier à Macao. Nous vivons parmi les Chinois, ça a toujours été comme ça, mais nous sommes différents.
On est venu vous retrouver, on a pris un taxi et le chauffeur de taxi ne parlait que le chinois. On n'a pas pu arriver à l'heure au rendez-vous parce qu'il n'a pas très bien compris où on allait. Quand on a dit Teatro de Pedro V, Quinto, il ne savait pas où c'était.
Le chauffeur de taxi n'aurait pas trouvé l'adresse. Et vous seriez de toute façon perdu. C'est quelque chose de normal à Macao. Nous parlons tellement de langues ici que c'est très habituel de voir des gens qui ne se comprennent pas du tout. C'est quelque chose que nous avons parfaitement intégré dans nos vies de tous les jours.
Est-ce qu'il y a une traduction chinoise de cette adresse, Teatro di Pedro Quintos?
Gong Deng Kek Yun. You wouldn't find that. It's Gong Deng Kek Yun. Gong Deng.
Vous ne l'auriez jamais trouvé.
Gong Deng. Gong Deng.
C'est le nom que donnent les Chinois à l'endroit où le théâtre a été construit.
The place where the theater was.
Il y a une colline là-bas.
It's a hill.
Et sur cette colline, rien ne poussait.
On that hill. So it's Gong. Gong means bald.
Signifie chauve.
No hair. Bald. Deng,
et Deng veut dire sommet. Kong Teng veut donc dire le mont chauve. Et c'est là qu'au 19e siècle, on a construit le premier théâtre de style occidental jamais bâti en Chine.
D'habitude, quand il y a une décolonisation, les métis sont mal vus par... les anciens colonisés. Est-ce qu'il y a eu le même phénomène ici après la rétrocession de Macao à la Chine?
Nous étions très inquiets de cette situation. Parce que depuis que nous sommes des Poyan, des Portugais nés à Macao, on se demandait ce qui allait se passer pour nous après la rétrocession. Mais heureusement, très heureusement, le gouvernement a été très clair. On a besoin de tout le monde à Macao et même des Portugais.
Demain, c'est dimanche. C'est jour de messe.
Il faut à messe grande. Il faut à messe grande.
Mais son mari est macanais comme nous.
Quelque chose, mesdames, qui est assez drôle. Nous sommes à la tour de Macao. Au troisième étage, il y a l'association des macanais. Et au quatrième, il y a la fête des Portugais. C'est pas la même chose, on se mélange pas.
Je vais à deux fêtes.
À les deux fêtes.
Cécilia Georges et Annabella Ricci, figures emblématiques de la communauté macanaise.
J'étais là-bas, j'étais là-haut, et maintenant je suis ici. Et quelques moments après, j'irai de nouveau là-haut pour la fête.
Et moi aussi. Oui. C'est très, très convenant d'avoir des places pour nos rencontres. Et les macanises, ils ont besoin de mettre des mots en chinois s'il le faut. Et les mots en anglais, et les mots en portugais, et les mots en indien, et les ingrédients de la culinaire en indien et en africain. Le mélange n'existe pas là-haut. Ils font le Noël portugais tout court, oui. Avec le coq, brouillé, je ne sais pas, et avec ces choses. Ils n'ont pas...
Ils ont
le portugais, les habitudes portugaises. Ils ont du gâteau des rois. Nous n'avons pas ici. Nous avons ici le cake anglais que nous avons adopté, les macanises, à cause des Anglais qui vivent très, très proches. Et c'est différent, mais nous nous sentons très bien au bien, au de lien.
Ouvi, isto não é nessa comédia bom nunca.
Rafeiro, um dentista. Ano passado, são mais cômicos.
É bom que
ouvi.
Ele é ici.
Vous parliez de ce patois en disant que ce n'était pas une langue de communication, mais une langue de divertissement. Qu'est-ce qu'on raconte avec cette langue alors?
Qu'est-ce que nous faisons avec cette langue?
Qu'est-ce qu'on raconte avec cette langue?
Ah, comédie, par exemple.
Oui.
Nous faisons beaucoup de comédie.
Nous faisons la critique des coutumes, la critique des habitudes.
Critique sociale, critique politique.
Et aussi pour s'amuser, des histoires, des petites histoires d'amusement avec les habitudes des personnes, les traditions.
Quelqu'un dit quelque chose en patois? Oui? Que vous voulez savoir? Hein?
Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Qu'est-ce que c'est que cette langue?
C'est une langue sans mixture de portugais, con chinois, con anglais, con malayo.
C'est une mélange, hein?
Une mélange, une grande mélange. Et elle applique le mot de la cuisine, le chau chau. C'est un mot de cuisine, on mélange à la cuisine, et le mélange de langue. Oui.
Alors pourquoi ça a disparu?
Ça a disparu par faute de l'usage. Les gens très âgés ont disparu, elles sont mortes. Et les langues du commerce ont sont posées. Et c'est l'anglais. C'est la langue des négociants qui marche. Ce n'est pas la langue des aïeuls.
Là, du Kivelu. Coropa suga, estrada que estreita, janela com fula, nhonhonha cantar.
Merci à Eric Sautedet, à Ecolo, Franklay, Cecilia Georges et Annabella Ricci. Merci également à Francisco Pinheiro, Miguel de Sena Fernandez, Carlos Mareros et Chaninho. Merci enfin aux voix de France Culture pour les traductions. Macao, un confetti d'éternité. Prise de son et mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation Rafik Zénine, attaché de production Meryl Moneghetti, production coordination Catherine Libert, Une ville monde d'Alain Lefkovitch.
Un fala macau san grande que foi, no senti que nunca san. Sai para o acedo cedo, vai de bar a porta cerco, olá gente
conhecido. J'ai rarement quitté une ville avec autant de regrets, écrivait Ian Fleming dans Des villes pour James Bond. Alors ne quittons pas Macao, un pays, deux systèmes, une ville-monde, deux escales. Seconde escale, Macao-Ville-Monde, dimanche prochain, 8 mai à 15h. Les voyages continuent sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter éternellement en podcast Ville-Monde, Macao et toutes nos escales à travers le monde. Et dans quelques instants, nous retrouvons Culture d'Islam sur France Culture.
Hey! Hey!